J'ai vu totalement ce
que tu vois.
Parole aux auditeurs, l'émission vous donnant l'opportunité de vous exprimer sur des sujets qui vous intéressent. Le Monde a célébré hier dimanche 20 novembre la journée mondiale de l'industrialisation de l'Afrique. Décrétée par les Nations Unies depuis 1989, cette journée vise à inciter les pays à s'engager davantage dans le processus industriel, à inciter une prise de conscience au niveau mondial et à mobiliser la prise internationale en faveur du développement industriel de l'Afrique. L'industrie crée des emplois, accroît les revenus, augmente les valeurs des produits agricoles, favorise le progrès technologique, ouvre des perspectives économiques aux femmes et produit des recettes qui permettent au gouvernement de réduire et d'éliminer la pauvreté. La moitié de la population de l'Afrique dispose de moins d'un dollar par jour pour vivre et 34 des 48 pays les moins avancés se trouvent en Afrique. La RDC a connu une désindustrialisation à partir des années 70. Jusqu'à ce jour, le pays peine encore à se redresser. Il y a plus d'une année, un audit diligenté au sein du ministère de l'Industrie sous la supervision du comité de pilotage de la réforme des entreprises publiques situé à 5% l'industrialisation de la RDC. Que proposez-vous pour promouvoir l'industrie en RDC? Monsieur Joseph Désiré Sapacha est notre invité et les experts économiques. Je suis Nyanga, Clovis Lubula-Bawela réalise l'émission, Nicole Ndaka la supervise, Dédéné Nyangasa est à la mise en onde et Marie-Conta Lumba vous la présente.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Notre invité est dans ce studio. Bonjour, monsieur Sapata.
Bonjour, madame.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Selon les derniers chiffres d'une enquête menée il y a plus d'une année au ministère de l'Industrie par le comité de pilotage de la réforme des entreprises publiques, le COPIREP, il situe en fait à 5% l'industrialisation de la RDC, des chiffres bien sûr qui peuvent peut-être avoir évolué au cours de cette dernière année. Mais dites-nous en tant qu'expert en économie, quels sont les éléments qu'il faut tenir en compte pour qualifier un pays qui soit dit industrialisé?
Merci. Il y a naturellement, disons, le niveau, notamment le niveau de l'industrialisation qui tient d'abord par la contribution de ces secteurs dans le produit intérieur brut et qui pourrait faire ressortir, c'est-à-dire la dynamique évolutive de ces secteurs. Et ensuite aussi, il y a un peu plus en profondeur, c'est-à-dire sa contribution dans la valeur ajoutée, c'est-à-dire la dynamique de création de richesses par le secteur. Parce que comme vous le savez, le secteur industriel, c'est le secteur de création de richesses par excellence. Et il y a également le taux, n'est-ce pas, des infrastructures industrielles que compte le pays. Il y a aussi le niveau de sa production, c'est-à-dire de sa production de biens d'équipement et de biens de consommation. Voilà, c'est pas du tout exhaustif, c'est des éléments un peu plus fondamentaux que nous pouvons prendre en considération pour réaliser le niveau d'industrialisation.
Et que vous pensez que l'industrialisation va de pair avec le développement?
Naturellement.
Naturellement.
Donc, en fait, c'est un des éléments, un des maillons qui impulse le processus de développement.
Et l'idéal serait aussi d'éliminer la pauvreté grâce à cette industrialisation.
Effectivement.
Oui, et nous allons écouter nos auditeurs. La question centrale aujourd'hui, c'était de savoir qu'est-ce que nos auditeurs proposent pour promouvoir l'industrie en RDC. Et je rappelle les contacts à tous ceux qui veulent participer à cette émission. Ils peuvent nous envoyer leur message au 081-684-7307, le 081-684-7307. Bien sûr, n'oubliez pas de signer votre SMS. La seconde possibilité, c'est de nous écrire à travers pa@radiocapi.net. Et la troisième possibilité, c'est de composer le 081-890-6315, le temps de donner votre nom, la ville d'où vous appelez et votre numéro de téléphone. Nous allons vous rappeler pour que vous puissiez intervenir en direct, comme l'a déjà fait Serve qui se trouve à Mbandaka.
Parole aux auditeurs.
Bonjour Serve. Nous avons perdu Steve qui se trouve à Mbandaka. Nous allons lire ce message qui nous vient de Béni à travers, bien sûr, notre numéro SMS. C'est Jonathan Mwenge. Il nous écrit ceci: pour promouvoir l'industrie en RDC, le gouvernement doit assouplir les mesures d'implantation des industries au pays et doit faire un effort de créer des industries diversifiées dans différents secteurs de la vie, et cela dans toutes les provinces. Il faut également que l'État améliore le climat d'investissement, c'est ce que je veux dire, peut-être vous voulez faire allusion au climat des affaires. Sylvie Massella, il se trouve en Ontario, c'est au Canada. Pour promouvoir l'industrie en RDC, l'État doit d'abord sécuriser l'ensemble du territoire congolais avant toute chose. Deuxièmement, sur le plan diplomatique, instituer un dialogue régional avec tous nos voisins. Les résultats de ce dialogue de paix devront être soumis au Conseil de sécurité des Nations Unies ou au Conseil de sécurité de l'OUA. Sur le plan militaire, reformer l'armée et les services de sécurité en créant une armée républicaine et des services de police dans chaque ville congolaise. Bref, restaurer l'autorité de l'État. Une fois le territoire sécurisé, la paix et la sécurité pourront ainsi inciter les investisseurs à venir en masse dans notre pays. Pour ce qui concerne l'industrie, il faudra renégocier les contrats miniers actuels, imposer les investisseurs étrangers une main-d'œuvre locale. La promotion de l'industrie, c'est aussi la construction des routes de desserte agricole, faire de l'agriculture une priorité de l'État et développer d'autres sources de revenus comme le tourisme. On doit aussi construire des usines de transformation sur place en RDC. Enfin, la RDC doit avoir des bons négociateurs des contrats avec les investisseurs étrangers. Nous allons écouter Léon, peut-être qu'il est déjà de retour. Nous commençons d'abord par Steve de Mbandaka. Nous espérons que c'est pas là où vous êtes en ligne. Bonjour Steve.
Oui, bonjour madame.
Nous en avait des petits problèmes et là on vous a au bout du fil. Dites-nous, qu'est-ce que vous proposez pour promouvoir l'industrie en RDC?
Oui, merci beaucoup. J'ai bien suivi l'exposé de l'invité au niveau du studio. J'ai trouvé aussi la pertinence de l'émission. Mais en réalité, je suis un peu inquiet que la proposition de l'industrialisation de l'Afrique soit quelque chose d'une émanation occidentale. C'est-à-dire que les dirigeants européens puissent prendre conscience que le peuple africain devrait subir l'industrialisation dans leurs différents pays pour nous prendre l'augmentation de leur façon de voir les choses, l'augmentation de leur richesse et l'augmentation de leur prix intérieur brut. Mais je suis un peu encore très inquiet qui est jusqu'à la preuve du contraire. La République démocratique du Congo, qui n'a que 5% de l'industrialisation dans son PIB, ne pousse pas à se retrouver dans ces concerts-là. Donc, c'est un sentiment de désolation, c'est un sentiment de consternation. Mais je me poserai encore, moi, la question, et la question aussi à l'invité de savoir quelles sont les mesures prioritaires que nous, Congolais, dans le système que nous vivons encore dans les fois, pouvons-nous faire pour aboutir déjà à cette industrialisation-là? Parce que ça, c'est comme si c'est un sujet fictif, hein? C'est un sujet fictif qui, de toutes les façons, ne prend pas encore corps Alors, je veux un peu savoir, je demande un peu à l'invité, quelles sont les mesures prioritaires, quelles sont les dispositions à prendre réellement pour que les Congo puissent autonomes, on aime pas vers l'industrialisation. Est-ce que ça coûte des moyens? Ça coûte combien réellement?
Donc, vous voulez savoir qu'est-ce qu'il faut pour qu'un pays comme la RDC puisse être dit un pays industrialisé? Merci beaucoup, Steve de Mbandaka. Mais aujourd'hui, nous aurions voulu plutôt avoir vos propositions à vous, Mbandaka. Qu'est-ce que vous pensez qui peut être fait, Mbandaka, pour que, par exemple, on puisse créer des entreprises, qu'on puisse faire venir des investisseurs? C'est plutôt le sens de notre émission. Mais comme vous avez une préoccupation, vous voulez plutôt savoir qu'est-ce qui peut être fait. Nous vous remercions, Steve de Mbandaka. Nous allons prendre Léon de Béni. J'espère qu'il est en ligne. Bonjour Léon.
Oui, bonjour Marie-Chantal Lumba et bonjour aussi à notre invité.
Nous vous écoutons vos propositions.
Moi, je dirais que pour essayer de promouvoir l'industrie dans notre pays, ou bien encourager les investissements, d'abord c'est la sécurité. La sécurité doit être assurée pour protéger les biens et les personnes de tout individu qui vit dans notre pays. Et nous voyons que dans notre pays, l'insécurité règne à domicile. Donc, c'est déjà un facteur qui décourage les investisseurs à venir investir dans notre pays. Et deuxièmement, peut-être dans notre milieu, je soulevais quand même ces problèmes. Il y a problème aussi de surtaxation de nos industries. Souvent, les propriétaires des industries, ça cadre aussi parfois, ils sont tentés de fermer parce que l'État les embrouille avec beaucoup de taxes. Cependant, même si il est connu que l'État n'aura pas de moyens, tant qu'il n'a pas encore comment afficher des taxes et des impôts, mais l'État a quand même l'obligation d'organiser la perception des taxes d'une manière là organisée, mais pas gêner les commerçants. Et deuxièmement, l'absence de fonds de promotion. Nous avons des industries locales, mais qui souffrent, ou bien qui sont tentés aussi à fermer, puisque l'État ne prend pas de mesures pour les promouvoir. Par exemple, beaucoup d'industries qui sont ici à Béni importent des emballages. Mais l'État devrait quand même les exonérer, devrait quand même les encourager à partir des exonérations de certaines taxes pour essayer de favoriser les investisseurs nationaux de continuer et d'absorber l'export. Mais l'État n'aménage pas aucun effort pour essayer d'encourager ces investisseurs nationaux.
Merci.
Et en conclusion, j'ai dit que l'État doit assurer la sécurité pour tout le monde. Nous sommes des travailleurs, nous Congolais, nous devons travailler, mais la sécurité et l'insécurité nous découragent.
Merci beaucoup Léon, vous êtes à Béni. Pour vous, premièrement la sécurité, vous avez l'impression que l'État n'incite pas les nationaux à pouvoir investir, et c'est allusion aussi à la politique fiscale notamment. Vous avez regretté qu'il y ait une surtaxation, si on peut dire ainsi, de ceux qui sont déjà en place à Béni. Nous vous remercions, mais vous souhaitez aussi qu'il y ait un fonds. Léon, quand même, on va quand même vous informer qu'il existe quand même déjà le fonds de promotion de l'industrie qui, depuis 2009, a déjà commencé, et même peut-être même plus tôt, a déjà commencé à donner quand même certains fonds, et vous souhaitez que cela puisse être visible à Béni, parce que néanmoins, dans d'autres provinces, ce fonds est déjà opérationnel. Nous vous remercions, Léon, de votre participation. Ernest, vous êtes à Mbandaka, bonjour.
Ernest ou Matadi?
Oui, vous êtes plutôt à Matadi. Bonjour, Ernest.
Bonjour, maman.
Ernest, nous vous écoutons.
Merci. Je crois que nous n'allons plus inventer la roue. Les dispositions d'invention des entreprises sont dans notre pays permanentes. Chaque jour, nous vivons au quotidien cette réalité que notre pays a une vocation industrielle. Mmh. Nous avons une nouvelle voie qui s'appelle la petite et moyenne entreprise. Il suffit de redonner, je l'ai toujours dit, de réorienter la formation des enfants congolais vers l'organisation des industries, lourdes, industries alimentaires, industrie légère. Nous avons on réoriente le système éducatif. On aura déjà préparé dès l'école les chefs qui vont commencer à transformer les choses. Parce que nous allons transformer les biens produits localement ici, que ce soit les produits agricoles, que ce soit les produits miniers, transformer et revoir la transformation. Pas seulement l'industrie de transformation ici, mais les transformations installées dans notre pays.
Une
structure réglementaire est juste, il suffit que la volonté politique soit et que les experts qui ont étudié cela soient mis dans des conditions favorables pour sortir dans leur cerveau tout ce qu'ils ont étudié. C'est désolant lorsqu'on commence par exemple les cartons qu'on utilise pour les chanchards. Ils sont fabriqués ailleurs alors que nous avons des forêts pour avoir tous ces produits fabriqués de cartons et de tout ici au pays. Mais nous utilisons des papiers importés ailleurs. Donc nous avons tout ici. C'est une volonté politique de cette pensante, les choses peuvent bien partir. On n'en a pas besoin de 3 ans ou de 4 ans.
Merci beaucoup Ernest de Massadi. Pour vous, c'est une question de volonté politique, de formation surtout. Et de créativité, vous insistez pour que la création des entreprises plutôt de transformation, malgré qu'il existe déjà des entreprises d'extraction, mais plus que vous souhaitez des entreprises de transformation. Et vous avez souligné qu'il existe déjà quand même un arsenal juridique assez fort pour permettre cette évolution, mais tout dépend, selon vous, de la volonté politique. Tamwe, vous êtes à Lougoudi. Bonjour.
Oui, bonjour, madame Marie-Chantal Lumba.
Oui, dites-nous à Lougoudi, vous nous captez comment, Radio Capi?
Oui, tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation que vous m'offrez aujourd'hui pour passer en direct pour la première fois de Radio Capi.
Mm-hmm. Et comment vous nous suivez? Il y a une radio partenaire à Lougoudi?
Oui, il y a une radio partenaire, c'est la radio communautaire, la radio télévision communautaire Luanzo. Vous avez fait quelque chose de Luanzo?
C'est assez impressionnant parce que c'est la première fois depuis que nous sommes dans Parole aux auditeurs d'avoir un auditeur de Lougoudi et nous sommes vraiment flattés. Dites-nous, Ntamboy, qu'est-ce que vous vous proposez pour pouvoir promouvoir l'industrie en RDC?
Bien, merci beaucoup, madame Chantal Lumba. Vous avez posé toute la première question à notre invité. Il a dit l'industrialisation va se faire avec le développement. Vous savez, le Congo, c'est un pays pour qualifier. C'est pas des paradis, mais il y a beaucoup de choses qu'on fait, c'est la volonté politique. Si le gouvernement a une politique nationale, il y a beaucoup d'investisseurs qui viennent ici, mais c'est la catégorie administrative. Vous savez, le gouvernement, on ne sait pas quoi dire. Vous savez, nous prenons les exemples du Katanga ici. Nous avons sur place une trangerie à l'Ougoudi qui ne fonctionne pas. Pourquoi? La politique n'est pas bonne. On va en Zambie, vous savez, l'industrie alimentaire, on peut tirer sur le Katanga. En Zambie, les climats, en Zambie, on ne comprend pas que le gouvernement du fait n'est pas capable de gérer les affaires.
Donc vous avez l'impression, Tamboué, qu'il y a plus d'importations que d'exportations et vous voulez que la tendance puisse changer?
Oui, vous savez, la solution, c'est que le gouvernement doit voir dans sa manière de gérer les choses. Et une politique nationale, c'est une grande ligne ici. Il y a beaucoup de principes qui travaillent, mais les Congolais sont-ils?
Merci beaucoup, Ntamboué. Donc, à votre avis, la RDC a vraiment un potentiel assez riche qui permettrait de pouvoir mettre en place tout ce qu'il faut pour les importations, plutôt les exportations, et vous regrettez cela. Vous êtes revenu sur ce que pense Ernest qui a fait allusion à une volonté politique. Nous allons écouter Papy de Bukavu, puis nous allons redonner la parole à notre invité. Bonjour Papy.
Oui, bonjour, madame Marie-Chantal et à tous les auditeurs, sans que bien être invité.
Nous vous écoutons, Papy.
Oui, moi, comme ma proposition, je voudrais dire ceci. Il y a de certaines provinces qui ont des industries. Comme si vous avez l'industrie de savon, vous fabriquez mon gangue, de l'huile et d'autres choses. Et il y en a d'autres provinces qui ont seulement l'industrie de miroirs ainsi que de sacoches. Vous pouvez s'étendre pour permettre à ce que les autres provinces aient la même chose. Et ceci dans d'autres pays qui ont, par exemple, des réseaux de Vodacom ainsi que d'Airtel. On peut donner à d'autres provinces qui n'en ont pas, en fait que eux aussi vous donnent ce qui vous manque pour que vous puissiez être égal.
Donc à votre avis, papy, il faudrait d'abord répertorier en fait les potentialités de chaque province et voir ce qui peut être fait dans chaque province.
Oui, il faut faire cela, il faut évaluer des choses pour permettre à ce que d'autres industries que vous n'avez pas, vous puissiez les bénéficier à travers vos voisins ou bien à travers votre pays qui est voisin ou à travers le territoire qui n'est pas à votre territoire ou à la province qui n'est pas à votre province. La province qui a par exemple l'industrie de souliers, de caisses, de ballons, vous manquez cela, vous pouvez les bénéficier, vous donner ce que eux manquaient pour que vous puissiez jouer la même chose. Voilà un peu Marie Chantal, je vous remercie.
Merci beaucoup. Donc un partenariat gagnant-gagnant avec les collègues, les voisins et les autres pays. Merci Papy. Gloire, vous serez notre dernier parce qu'on me fait signe que vous êtes déjà en ligne. Au lieu d'attendre que vous puissiez intervenir après l'invité, nous vous prenons en quelques minutes. Dites-nous, Gloire, quelles sont vos propositions?
Ok, moi je voulais un peu avant de poser les questions à votre invité. Je voulais tout d'abord savoir que je voulais te donner mes apports parce que pour moi l'industrialisation, là pour moi est vraiment connaître la définition de l'industrialisation, aussi connaître les différentes sortes d'industrialisation. Je pense que si c'est nous à l'Italie, bon, on voit comme ça, il y a des sociétés par-ci, par-là, mais quand vous demandez à quelqu'un de vous donner combien d'industries il y a, on ne saura pas vous donner parce que ce que c'est ça, c'est qu'il y a plusieurs sortes d'industries. Il y a les industries de transformation, les industries de traitement, mais juste là, moi, je peux dire que les industries de fabrication, il n'y en a pas parce que là, on sait qu'il y a un profil. Au moins, on a des industries de traitement, on teste, mais sinon, il n'y a pas d'industrie. Alors, je voudrais au moins poser la question à votre invité de savoir qui va se quoi en classe, là, c'est parmi les pays les plus industriels, parce que c'est qui a des pays les plus industriels. Moi, je ne sais pas. À quelle place est passée la RDC.
Merci beaucoup, Gloire de l'ICACI.
Parole aux auditeurs.
Nous revenons dans ce studio avec notre invité, Joseph Désiré Zapata. Vous êtes expert en économie. Vous avez suivi notre première série d'auditeurs. Ils sont revenus premièrement sur la sécurité, parce qu'effectivement, dès qu'un pays est sécurisé, c'est totalement logique que les investisseurs puissent s'intéresser à un pays comme la RDC si la sécurité est rassurée. Et aussi, ils sont revenus sur un fait. Ils souhaitent qu'il y ait une politique incitative en RDC. D'autres même ont pensé qu'à un certain moment, il n'y avait pas assez. Il y a certains qui reconnaissent qu'il y a déjà un arsenal juridique assez fort, qu'il y a déjà des institutions, mais il faudra encore un peu de temps pour que cela arrive. Mais d'autres sont revenus sur la volonté politique. Au regard de tous ces avis de nos auditeurs, comment vous réagissez?
Eh bien, madame, ma réaction, c'est que tous nos auditeurs ont pratiquement balayé, disons, tout ce qui touche, n'est-ce pas, à l'état des lieux actuel de notre secteur de l'industrie, comme vous l'aviez relevé, que le pays n'est industrialisé que à 5%. Donc, parlant de la sécurité, ça rentre en fait dans les cadres, c'est-à-dire de l'environnement, n'est-ce pas, l'environnement qu'on doit mettre en place pour permettre à ce qu'il y ait un développement harmonieux des affaires dans le pays. Eh bien, parlant de la volonté politique, c'est tout à fait normal, n'est-ce pas? Parce que s'il n'y a pas une volonté manifeste de pouvoir industrialiser le pays, eh bien, il est tout à fait difficile de pouvoir arriver à cet objectif.
Mais le fait qu'il y ait, par exemple, déjà deux lois, qui est par exemple le fonds de l'industrie, qui est aussi par exemple la NAPI.
Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de volonté politique. Je suis en train de rentrer dans ce que les auditeurs viennent de nous suggérer. Eh bien, commençons par le commencement. Eh bien, vous savez, que le pays a subi au moins trois décennies, n'est-ce pas? Trois décennies de perturbations où nous avons connu des conflits, nous avons connu des guerres, des crises, et ainsi de suite, tout ça, qui ont contribué, n'est-ce pas, à saper les bases formelles de notre économie, et jusqu'à ce qu'il y ait eu développement de l'économie informelle, qui a supplanté, n'est-ce pas, l'économie formelle. Et il était toutefois indiqué, n'est-ce pas, que le pays arrive d'abord à penser son développement, que le pays arrive à projeter une vision de développement. Je pense que c'est ce qui a été fait, partant d'abord de 2001 et jusqu'en 2003, lorsqu'on a mis en place les premiers programmes, notamment dans le cadre du PUR, parce qu'il fallait reconstruire. Il fallait reconstruire d'abord le pays qui était dévasté par des guerres que nous avions connues. Et ensuite, il y a eu le PEG, le programme économique du gouvernement, où il y a eu des objectifs précis. D'abord, il fallait stabiliser le cadre macroéconomique, maîtriser l'hyperinflation. On avait ici une inflation de trois chiffres, ça ne pouvait pas permettre à ces guerres qu'on puisse développer une économie réelle. Donc, il fallait d'abord mettre en place, c'est-à-dire un cadre macroéconomique propice, n'est-ce pas, pour permettre à ce qu'on puisse progressivement relancer la machine économique du pays.
Mm-hmm.
Alors, évidemment, à travers cet état de lieux piteux, il était toutefois indiqué que on puisse avoir prendre conscience du fait que le pays était dans un état de pauvreté, dans un état de sous-développement, de marasme sans précédent.
Mais maintenant, avec cet effacement de la dette, on peut recommencer.
Je suis en train d'évoluer.
Oui.
Donc, il y a eu d'abord cette prise de conscience. Cette prise de conscience a permis à ce que ça puisse réveiller les autorités pour qu'ils puissent afficher quand même une volonté politique de pouvoir inverser les tendances. Et ce qui a fait que on a élaboré le document pour la stratégie de la croissance et la réduction de la pauvreté.
Mmh.
Parce qu'il faut...
déjà la deuxième génération.
Maintenant, nous en sommes au document de la deuxième génération. Et ce document devrait se faire appuyer, n'est-ce pas, par des politiques sectorielles d'appui. Et c'est dans ce cadre qui concernant le domaine de l'industrie, qui est notre sujet d'actualité aujourd'hui, n'est-ce pas, le gouvernement congolais a élaboré ce qu'on appelle le document de politique et de stratégie industrielle, n'est-ce pas, qui consiste en fait une nouvelle politique d'industrialisation du pays, où le gouvernement a ciblé quelques filières prioritaires. À travers ces filières, on pense qu'avec par effet de polarisation, on arrivera, n'est-ce pas, à stimuler les autres secteurs et à booster sur la croissance et promouvoir l'économie et le développement socio-économique.
Et on peut revenir sur la question de Steve. En fait, selon vous, quels sont les domaines qui doivent être prioritaires, comme vous l'avez bien expliqué, un domaine où on arrive, si on arrive à industrialiser à fond dans ce secteur-là, ça peut tirer les autres secteurs, à votre avis, en tant qu'expert en économie?
Bon, il y a quatre filières prioritaires qui ont été identifiées, notamment l'agro-industrie, c'est-à-dire agro-industrie, agroalimentaire. Il y a la valorisation minière et la métallurgie. Il y a les matériaux de construction et il y a les emballages. Et pourquoi l'agro-industrie? Vous savez, nous sommes un pays à vocation agricole et il faut que les gouvernants arrivent à assurer, n'est-ce pas, la sécurité alimentaire. Et vous savez que l'industrie, par le fait de la transformation et la valorisation des ressources naturelles, dont les ressources agricoles, n'est-ce pas, accorde au fait une marge de sécurité, une marge de longévité, n'est-ce pas, aux produits, par exemple, périssables. Nous pouvons produire des biens primaires, mais il faudrait, n'est-ce pas, leur apporter une certaine valeur ajoutée industrielle pour que ces produits puissent avoir une certaine valeur.
Et dans l'agroalimentaire, c'est plus facile que, par exemple, si on devait arriver à des produits de transformation qui étaient dans les mines.
Les mines ont été prises en considération. Lorsque j'évoque la deuxième filière, c'est-à-dire il y a la valorisation minière et métallurgique. N'est-ce pas? Compte tenu des avantages que nous avons déjà dans le secteur des mines, c'est un secteur qui rapidement peut permettre à l'État de générer des revenus pour financer la politique gouvernementale économique globale. Et il y a la métallurgie, n'est-ce pas? Parce que nous sommes en train de aujourd'hui de reconstruire le pays et il y a des besoins énormes, par exemple dans les barres de fer et autant de choses de profilés, beaucoup de choses qu'il ne faudrait pas continuer à les importer parce que cela est en train de porter un peu préjudice, c'est-à-dire à la balance de paiement, parce qu'il faut sortir d'importantes masses de devises pour acquérir ces biens dont le pays ne produit pas encore. Mmh. Alors on a estimé qu'il fallait concentrer les efforts dans ces filières à la longue et le développement de ces filières va permettre à ce qu'on puisse développer aussi les autres filières.
Il y a aussi l'avis de Léon, il fait allusion à la politique fiscale. Alors, il parle de surtaxation dans certaines de l'État sur certains produits et il estime qu'il faudrait de temps en temps exonérer. Qu'en pensez-vous?
Au fait, là, nous rentrons dans les cadres des incitations. Mm-hmm. C'est vrai, la politique fiscale a une influence. Ça peut être négatif comme positif sur la mise en œuvre de la politique industrielle, c'est-à-dire la mise en œuvre de la promotion des investissements, mmh. évidemment, mais réaliser qu'avec, on ne peut le faire que dans un cadre bien précis. C'est comme cela qu'il existe. Il existe un arsenal juridique, il y a un code des investissements qui a été mis en place, et à travers ce code, ce qui amène de nouveaux investissements, eh bien, il trouve là-dedans les facilitations que l'État met en place pour les aider à pouvoir rentabiliser leur investissement.
Nous allons écouter d'autres auditeurs, bien sûr, comme Ngopa qui se trouve en Kananga, Kyulu qui est ici à Kinshasa. Et je rappelle aux auditeurs qui veulent participer à cette émission, vous pouvez composer le 081-890-6315, vous donnez votre nom, la ville d'où vous appelez, ainsi que votre numéro de téléphone. Vous pouvez nous écrire vos SMS au 081-684-7307 ou à pa@radiookapi.net.
Vous êtes jeune, vous êtes curieux, nous avons de l'énergie à partager ensemble tous les jours sur Radio Okapi. De 15 à 17 heures, c'est Total Energy. 2 heures de musique, Actu People, emploi, environnement, nous ouvrons le dictionnaire dans J'aimerais savoir. Nous vous donnons aussi la parole dans Regard d'avenir, point de vue et portrait de zone. Chaque jour, vous avec une question de connaissances générales. Pour mettre le feu de 15h à 17h sur Radio Okapi, Total Energy, c'est l'énergie totale.
Bonjour Ngopa. Bonjour. Ngopa, bonjour. Là, on a des problèmes avec la ligne téléphonique de Ngopa qui se trouve à Kananga. Et nous revenons ici à Kinshasa, Kyulu. Bonjour.
Ouais, bonjour Marie-Chantal.
Mais dites-nous Kyulu, qu'est-ce que vous proposez pour promouvoir l'industrie en RDC?
Moi aussi j'ai du mal à vous entendre, mais je sais que moi je suis en train de bien sortir là-bas. Mm-hmm. Alors c'est ravi Kyulu, je commence d'abord par saluer tous les auditeurs de la radio, Capi et tous les gens de RDC partout ailleurs, même en l'intérieur de la République démocratique du Congo. Mm-hmm. Pour promouvoir le sujet d'aujourd'hui, vraiment, d'abord, j'ai déployé ce système-là. Et d'abord, dans notre capitale, tout ce qu'il y a comme industrie, grande industrie, c'est seulement pour les étrangers, les gens qui sont venus investir. Mais ce qui nous appartenait, nous autres, on a eu à les vendre à d'autres personnes, et c'est ça. Et moi, je demanderais seulement le gouvernement qui sera élu, vraiment, qui sert l'appel de tous les diasporas congolais qui se trouvent à devenir. Ici, et quand ils viendront ici en République démocratique du Congo, on peut quand même les aider. Il ne faut pas les taxer, ne pas les faire avec des trucs comme ça, des taxes, non. On peut faire comprendre de bien venir installer leurs industries et faire des acquisitions. Il n'y a pas de grandes industries, surtout si c'est c'est notre maître de tout, nous les Congolais. Mmh. Vraiment, c'est ça mon chantage.
Merci beaucoup, Ngopa. Vous êtes plutôt ces Koulou qui se trouve ici à Kinshasa. Nous continuons cette émission, l'émission qui est vraiment centrée sur l'industrialisation de la RDC, selon une dernière enquête supervisée par le comité de pilotage de la réforme des entreprises publiques, ce comité, le COFIREP, situé à 5% l'industrialisation de la RDC. Nous savons que grâce à l'industrie, on peut créer des emplois, accroître les revenus, augmenter la valeur des produits agricoles, favoriser le progrès technologique, ouvrir en fait des perspectives économiques aux femmes et aussi augmenter les recettes du gouvernement, réduire et aussi éliminer la pauvreté. Et voilà, aujourd'hui nous en parlons, bien sûr en marge de la journée internationale de l'industrialisation de l'Afrique qui est célébrée chaque 20 novembre depuis 1989, cette journée a été décrétée par les Nations Unies.
Chaque jour, la fréquence de la paix unit le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des Grands Lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces à 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour des provinces, vivez les informations avec les reporters de Radio Capi.
Bonjour Dilly.
Bonjour Marie-Chantal.
Vous êtes en Bujumbura et nous vous écoutons. Qu'est-ce que vous proposez pour promouvoir l'industrie en RDC?
Oui, l'industrialisation, comme viennent de le dire les autres amis, c'est un problème majeur dans notre pays. En tant qu'économiste, moi je pense que il faut d'abord peut-être nous, Congolais, d'essayer un peu de catégoriser les industries que nous aurons besoin en République du Congo. Après le cercle qui est là avec vous sur le plateau, il sait que non. Au Congo, nous avons besoin de peu, mais nous avons aussi besoin de l'industrie lourde. Mais moi, je pense ici qu'au Congo, pour promouvoir l'industrie, nous avons, bien sûr, les gens qui viendront investir chez nous. Il y a un auditeur mandat pour préciser la main-d'œuvre locale. Pourtant, moi, je pense que si nous avons la main-d'œuvre locale, que cette main-d'œuvre-là n'est pas vraiment qualifiée, ça sera un problème parce que chaque jour, et il va continuer, nous risquerons toujours d'être sous la dominance de ces personnes-là qui nous apporteront leur nouvelle technologie. Alors moi je pense que c'est dans un premier lieu. L'État congolais doit choisir parmi les jeunes gens, les vaillants jeunes hommes congolais qui sont dans la politique, à l'école, partout ailleurs. Envoyez d'abord ces jeunes gens-là à l'extérieur, aller étudier, essayer de comprendre la technologie. Ce qui se passe à l'extérieur. Après un moment, revenir ici. En attendant, l'État va favoriser, comme l'a dit les amis, favoriser l'industrialisation, donner de bonnes conditions, permettre à ce qu'il y ait des implantations. Et à ces moments-là, quand les autres qui sont dehors reviendront, l'État va permettre et créer la disponibilité pour que ces jeunes gens-là soient alors engagés dans les entreprises. Et ils seront là juste en train de voir, comprendre comment est-ce que les autres sont en train de travailler pour essayer de copier ou de voler la technologie. Parce que présentement, madame, la technologie coûte trop cher. Je ne vois pas la République démocratique du Congo dans 20 ans, 25 ans être capable d'importer la technologie. Et par la suite, c'est notre concept peut-être aux gens qui produisent ici au Congo. Il ne faut pas implanter une industrie parce qu'il faut le faire. Il faut implanter une industrie qui produit ce qui coûte moins, ce qui coûte cher chez le voisin. Parce qu'il serait impossible de produire ici au Congo un produit peut-être que le Rwanda les produit à moins cher et le vendre. Parce qu'il y a la compétition. Nous ne pouvons pas oublier ce bien d'implanter l'industrie au Congo, mais il faut aussi voir la compétitivité de l'industrie qu'on va implanter.
Une étude du marché. Merci Dili de Mbujimé. Nous revenons dans ce studio avec notre invité. Vous avez suivi nos deux auditeurs, études du marché, recherche scientifique. Il y a aussi voir dans quelle mesure inciter, comme l'avait même déjà dit les prédécesseurs, inciter la création des entreprises. Dites-nous un peu concernant cette étude du marché et les technologies qui sont soulignées par Gilly de Mbujimayi. Est-ce que vous pensez que faire recours à nos universités, à nos universitaires, serait aussi un point de départ pour le développement et l'industrialisation de la RDC?
Voilà, en fait, j'étais dans une logique de développement de ma présentation. Et ce que Dini vient de relever tout à l'heure rentre en ligne de considération de la nouvelle politique de développement industriel que le gouvernement vient de mettre en place. Ça rentre dans ce qu'on appelle, c'est-à-dire la promotion de la recherche et développement dans le cadre de renforcement en fait des capacités d'une manière générale. C'est comme vous pouvez le relever, beaucoup des entreprises installées ici n'ont pratiquement plus des unités ou des départements de recherche et développement. Et nous avons constaté également, c'est-à-dire un déficit de collaboration entre l'université et la société, l'université et l'entreprise. Donc, c'est qui fait même que, c'est-à-dire que ce soit même dans les cadres de plans, c'est-à-dire de recrutement des entreprises, on ne tient pas compte, c'est-à-dire des filières universitaires qui sont ici en place dans le pays pour essayer d'utiliser ces ressources humaines que le pays est en train de former. C'est comme cela que dans le cadre de cette politique, l'État est en train d'insister pour qu'il y ait une étroite collaboration entre la recherche, l'université et l'entreprise.
Et d'ailleurs, dernièrement, au sein du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, ils avaient organisé un grand forum où il y avait des universités qui ont présenté leurs recherches. Mais comment appuyer les recherches, surtout pour les jeunes universitaires, peut-être qui ont des initiatives? Qu'est-ce qui peut être fait dans ce sens-là?
Oui, ça, c'est une matière, en fait, qui relève du ministère de la Recherche scientifique et du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. Et à mon avis, en tant qu'expert, je sais que dans ce secteur-là, les ministères de l'enseignement supérieur et universitaire, comme le ministère de la Recherche scientifique, ont également élaboré leurs documents, n'est-ce pas, des politiques et des stratégies, en appui aux documents des stratégies pour la croissance et la réduction de la pauvreté du gouvernement. En fait, il y a eu un travail qui a été fait en synergie entre les experts de tous les secteurs, n'est-ce pas, dans les cadres, c'est-à-dire de l'élaboration et la mise en œuvre du DCRP de deuxième génération. Donc, les problèmes, les préoccupations dans les différents secteurs ont été prises en considération et voire même, c'est-à-dire les interactions tant transversales, et pas, c'est-à-dire horizontales comme verticales, ont été également, c'est-à-dire...
Donc, c'est difficile de faire allusion à l'industrialisation sans énergie.
Évidemment, là, c'est...
Et on revient, en fait, sur cette énergie qu'on dit une énergie propre, une énergie renouvelable, avec une économie verte, comme souvent on l'emploie. Et à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on existe?
Oui. En fait, relevons d'abord que le problème d'énergie constitue aujourd'hui, c'est-à-dire un goulot d'étranglement pour tous les secteurs, pour le développement des secteurs vitaux, et pas de notre pays. Je considère l'industrie, je considère même l'éducation, je considère la santé, que ce soit l'agriculture. Parce que le développement de tous ces secteurs tient aussi par l'énergie. Quand on parle de l'énergie, nous sommes en train de voir l'eau, nous sommes en train de voir l'électricité. Et vous savez que pour développer l'industrie, l'eau comme l'électricité sont des facteurs transversaux très, très, très importants pour stimuler et soutenir l'action, le processus de l'industrialisation, c'est-à-dire pour assurer la transformation, c'est-à-dire des biens primaires en bien manufacturé. Et lorsqu'il y a un déficit, eh bien, ça va renchérir les coûts de production et cela fera en sorte que l'industrie ne soit pas du tout compétitive. Donc, il y a moins de performance industrielle. Et lorsque l'industrie elle est moins performante, Rassurez-vous, nous sommes dans une dynamique de la mondialisation, nous sommes dans une dynamique de globalisation des marchés, donc il y a la concurrence sur notre propre territoire, c'est-à-dire des produits étrangers, et en ce moment-là, face à ces produits qui bénéficient, c'est-à-dire déjà des secteurs énergétiques qui les appuient correctement, comprenez que notre industrie ne peut que enregistrer de contre-performances et les déboires.
Nous allons écouter cette dernière série d'auditions parce que nous cheminons vers la fin de cette émission. Héritier, vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour. Bonjour, Héritier.
Oui, madame.
Et, dites-nous, qu'est-ce que vous vous proposez pour promouvoir l'industrie en RDC?
Merci beaucoup, madame. La première grande chose sur laquelle moi j'insiste, on doit d'abord arrêter d'avancer des raisons. On doit arrêter de se plaindre, nous, Congolais. Toutefois, lorsqu'on demande pourquoi ça ne colle pas, on avance toujours des raisons. Un pays porte conflit, un pays détruit par Mobutu pendant les... Non, ces choses-là, ça doit arrêter. Nous devons être déterminés à faire quelque chose. Et si on est déterminé, on peut arriver à faire quelque chose. Je prends un exemple. Dans la détermination, il y a également la volonté politique. Dans ces pays, pour ceux qui ont eu à se promener à travers la République démocratique du Congo, ils savent que dans chaque province, il y a un quartier qu'on appelait autrefois quartier industriel. Mais si on essaie un peu de mener des investigations, vous comprendrez que ces quartiers ont tendance à disparaître. Tout simplement par manque de détermination, par manque de volonté politique. Donc moi je pense que pour un peu de développer les secteurs industriels ici dans notre pays, on doit prendre conscience, n'est-ce pas, on doit être déterminé. On doit développer le secteur tel que le secteur agricole. Pour avoir pour fabriquer par exemple du savon, on a besoin de l'huile de palme. On n'a pas besoin de ça ici chez nous. Au Congo, on importe n'importe quoi. Et on exporte n'importe quoi. N'est-ce pas? Pour également, par exemple, se développer, on a besoin de que le secteur énergétique soit développé. Un investisseur congolais ou étranger soit il ne peut pas aller implanter son industrie à Katakombe ou à Kikut où il n'a pas de courant. Ce sont là vraiment des problèmes qui minent le développement de ces pays. On doit également, parmi certains faits, on doit également procéder par la suppression de certains taxes inutiles qui ne profitent même pas aux Congolais, les systèmes de 25%, ainsi de suite. Et aussi, un plus grand problème aussi, c'est qu'on doit revitaliser notre administration. Il y a des pays comme la Belgique qui a fonctionné plus d'une année sans gouvernement. Donc, les pays atteignent parce qu'il y a une administration forte, mais dans notre pays. Et justement, d'introduire une lettre quelque part, ça va vous prendre des mois et des mois. Ce sont là les plus grands problèmes qui minent vraiment le développement de notre pays, surtout le secteur industriel.
Merci, Héritier. Nous redonnons la parole à notre invité, Monsieur Joseph Désiré. Comme je l'ai dit, vous êtes économiste. Et je rappelle à nos auditeurs qui veulent participer à cette émission les trois possibilités, le 081-893-6315 ou le 081-684-7307, le 081-684-7307, ou nous écrire à travers pa@radiocapi.net.
Élections 2011. Émission spéciale Parole aux auditeurs. Si j'étais président de la République, c'est un espace offert à nos auditeurs pour présenter brièvement leur mandature. Si vous étiez président de la République, quelles mesures prioritaires prendriez-vous dans un secteur déterminé en RDC? Rendez-vous avec Parole aux auditeurs, si j'étais président de la République, chaque mardi et vendredi, de 11h à 12h, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Et pour demain, si vous étiez président de la République, quelles mesures prioritaires prendriez-vous pour renforcer le pouvoir judiciaire en RDC? Et bien sûr, vous allez revêtir pendant 4 minutes la peau du président de la République et vous allez énoncer votre plan d'action. Mais nous revenons d'en parler aux auditeurs. Aujourd'hui, nous parlons de l'industrialisation de la RDC. Qu'est-ce que vous proposez pour promouvoir l'industrie en RDC? Notre invité, c'est M. Joseph Désiré Sapata, qui est expert en économie. Le temps de lire ces deux messages avant afin qu'il puisse ensuite nous donner son point de vue face à la vie d'Éric et de Kinshasa, ainsi que tout ce que nos auditeurs nous ont dit tout au long de cette émission. Olivier de Kisangani nous écrit ceci. Je propose que la RDC puisse réhabiliter les industries en faillite et que les experts en la matière, surtout qui puissent coopérer avec la RDC pour que cela puisse aller de l'avant. Cela pourra renforcer l'expérience qu'a connue la RDC. Il y a Ademaga de Boutembo qui nous écrit ceci. Il dit que les investisseurs, ils suggèrent qu'on puisse améliorer le climat des affaires et que la RDC soit sécurisée et que les investisseurs puissent faire confiance à nouveau à la RDC. Il faudrait réhabiliter les infrastructures routières et aussi améliorer la distribution en électricité. Il y a aussi Vicente Tamate de Boutembo qui nous écrit ceci. À Boutembo, il n'y a pas assez d'énergie et j'estime qu'il faudrait d'abord commencer par là pour redonner confiance aux investisseurs. Donc, sans revenir sur cette question d'énergie, Monsieur Sapata, nous vous écoutons. Dites-nous, c'est vrai que nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Au regard de tout ce que les auditeurs ont dit, qu'est-ce que nous pouvons retenir?
Ce que nous pouvons retenir, madame, c'est-à-dire prendre d'abord conscience de l'état des lieux actuels de notre secteur de l'industrie. Je pense que ça, c'est déjà quelque chose qui est déjà fait au niveau des responsables, c'est-à-dire des autorités du pays, comme des responsables sectoriels. Et ensuite, afficher la volonté politique, n'est-ce pas, de pouvoir inverser la tendance. Pour cela aussi, je pense que le pays est dans le bon, parce qu'il y a déjà une vision claire maintenant de faire une économie de la RDC, une économie industrialisée, compétitive, intégrée dans l'espace national, sous-régional, régional et mondial, fondée sur les filières valorisant les ressources et les potentialités du pays dans le respect des exigences du développement humain durable. Et ensuite, mettre en place, c'est-à-dire une politique qui va traduire, c'est-à-dire cette volonté politique, et mettre en place également, élaborer les stratégies y afférentes qui seront soutenues par un plan d'action prioritaire ou des domaines, c'est-à-dire bien ciblés, compte tenu des ressources, des potentialités du pays, n'est-ce pas, vont être prises en considération dans le cadre de ces plans d'action prioritaires afin d'essayer de stimuler la croissance et de pouvoir promouvoir le développement industriel parce que le processus a été arrêté. Ça fait comme il y a deux décennies déjà en arrière. Et ensuite, continuer à travailler, n'est-ce pas, pour créer un environnement propice au développement des affaires, mettre en place des incitations, comme vous venez de le dire ici, c'est-à-dire le développement des infrastructures. Je remercie beaucoup les autorités, de sorte que dans le cadre du programme des 5 chantiers de la République, le développement, c'est-à-dire la construction, la réhabilitation des infrastructures, occupe une place de choix.
Mais dites-nous, à quel moment le citoyen lambda va-t-il ressentir que, par exemple, cette croissance économique a une portée dans sa vie, dans son ménage?
Madame, comprenez que après au moins 30 ans de dévastation, le niveau auquel se trouve le pays exige des efforts soutenus. Le processus d'industrialisation, c'est un processus de longue haleine. Ce n'est pas un processus de court terme. C'est un processus de long terme où on doit chaque fois s'arrêter, évaluer les efforts qui sont en train d'être entrepris et les résultats qui sont en train de se produire. Et en 2003, on comptait à peine 110 entreprises, selon les statistiques de la CEPI, qui est l'organe compétent du gouvernement en matière, c'est-à-dire de promotion, c'est-à-dire de développement industriel. Il y avait à peine en 2003 110 entreprises que comptait manufacturer, que comptait la RDC. Et en 2010, selon les enquêtes qui ont été menées, le pays en compte 522. Il faut attendre 2011 pour connaître l'enquête qui vient de se faire, pour savoir si la dynamique est en train d'évoluer. Donc, voyez, madame, 2003, 110 entreprises, 2010, on en est à 522. C'est que quelque part, les choses sont en train de bouger. Mais c'est encore timide, mais donc les efforts doivent continuer. Et la prise de conscience doit être collective.
Et nous allons prendre Niembo, ce sera notre dernier auditeur. Bonjour Niembo.
Bonjour Marie Chantal, oui. Bonjour à tous les auditeurs. Je m'exprime un peu juste pour que je termine mon intervention. Je dis parmi mes précédents, je me soutiens à côté de parties qui étaient à Barbukavu. Oui. Je dis que suffisamment qu'à Lima, nous avons l'industrie, par exemple, de Maïbre, de d'autres industries. Les industries, il faut valoriser. Il faut avoir que l'industrie que vous n'avez pas à votre milieu, vous changez à d'autres trucs qui n'est pas à votre milieu pour que vous ayez la même.
Merci beaucoup, Renier Mbo. Nous n'avons plus assez de temps. Nous allons lire aussi le message de Jonathan. Il dit que l'industrialisation en RDC est dans un état chaotique. Le gouvernement ne sait pas répondre aux besoins de la population selon chaque province. Et il propose la décentralisation. Et nous disons ici merci à tous nos auditeurs. Merci aussi à vous, monsieur Jean-Désiré Sabata, d'avoir accepté de participer à cette émission. Et nous allons nous retrouver demain pour un nouveau numéro de Parole aux auditeurs. Si vous étiez président de la République, quelles mesures prioritaires vous prendriez pour renforcer le pouvoir judiciaire? Vous pouvez réagir dès à présent en nous écrivant à l'adresse internet pa@radiocapi.net. Merci à toute l'équipe. Nous allons nous retrouver demain.